Jeudi 6 octobre 2022, première séance consacrée à la lecture de l'évolution créatrice d'Henri Bergson. L'ouvrage est paru la première fois en 1907. Alors, d'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire pourquoi j'ai été amené à choisir l'étude de cette œuvre. Qu'est-ce qui m'a amené à choisir cette œuvre qui ne fait pas en principe partie de mon paysage intellectuel. Ce n'est pas le genre d'œuvre que je lis, ce n'est pas mon horizon d'habitude. Mais je me suis dit tout de même, ça vaudrait le coup de lire un grand texte de Bergson. Alors, pourquoi ? Parce que l'an dernier, nous avons lu « L'être et le néant » de Jean-Paul Sartre, autant que nous pouvions le faire. Et cette lecture y a contribué. Pourquoi ? Parce que, de son propre aveu, Sartre raconte que c'est la lecture du premier livre de Bergson, « Les données immédiates de la conscience », c'est cette lecture qui a décidé de sa vocation de philosophe. Il s'est orienté vers la philosophie à partir de cette lecture. Et c'est pas pour rien. Et puis, deuxième chose, nous avons l'an dernier réfléchi sur la mémoire, et vous savez que cette question est au cœur de la philosophie de Bergson, donc nous avons même consacré 2 séances à ce thème l'an dernier, en lisant Bergson, et c'est vrai que c'était assez plaisant à lire, très intéressant, et ça méritait d'être pris. Donc voilà ce qui fait que j'ai décidé cette année de lire « L'évolution créatrice ». Alors, avant d'aborder l'œuvre, quelques mots tout de même sur Bergson, c'est indispensable. Alors, contrairement à l'apparence de son nom, Bergson est un philosophe français. Il est né à Paris, le 18 octobre 1859, et il y meurt en janvier 1941, à 81 ans. Ses parents sont étrangers, ils sont des immigrés en France. Sa mère était anglaise, elle ne s'adressera jamais à son fils qu'en anglais. C'est pourquoi Bergson a une connaissance parfaite de l'anglais, il parle couramment l'anglais, il écrit l'anglais. Son père était issu d'une famille juive polonaise, qui avait compté au XVIIIe siècle des hassidim à Varsovie. Les hassidim, ce sont des sages du judaïsme, si vous voulez. Donc, sa famille avait joué, disons, un rôle assez important sur le plan religieux et intellectuel au XVIIIe siècle. Alors, tout cela vous est présenté dans un livre, d'ailleurs, si ça vous intéresse, de Philippe Soulez et Frédéric Worms, qui a pour titre Bergson, dans la même collection que celle où vous trouvez le livre, l'évolution créatrice, collection Quadrige, aux presses universitaires de France. Alors le père de Bergson était un pianiste. C'était aussi un compositeur, mais assez peu connu et assez peu reconnu. Il exerça plusieurs fonctions dans différentes villes d'Europe, Paris, à Genève, où il a été un certain temps professeur au conservatoire, puis à Londres. Et c'est parce qu'il naquit à Paris en 1859 qu'Henri Bergson devint français. Parce qu'il était né sur le territoire français et que de ce fait, il n'avait pas à être naturalisé, eh bien, il pouvait devenir français à sa majorité, sauf déclaration contraire de sa part. Après s'être fixé quelques années à Genève, donc où, comme je vous l'ai dit, le père enseigna au conservatoire, la famille Bergson s'installa définitivement à Londres, et le jeune Henri, qui avait 11 ans, eh bien, il resta à Paris, en pensionnat, pour y faire ses études. Ah, 11 ans, c'est jeune, hein ? Dès l'âge de 11 ans, il a vécu, disons, en pensionnat. Il avait un peu de famille, tout de même, de temps en temps, qu'il allait voir à Paris. Et il a fait des études brillantes. Alors, il a fait des études brillantes au lycée Fontane, qui ne s'appelait pas encore le lycée Condorcet. Il accumula les prix d'excellence, c'était un élève absolument incroyable. Il impressionna franchement ses professeurs. Il obtint notamment le premier prix au concours général de mathématiques, et on le pensait destiné à une carrière de mathématicien, puisqu'on publiait ses travaux, déjà, à l'âge de 18 ans, tant il excellait dans cette discipline. Mais il déçut son professeur de maths, en lui annonçant qu'il choisissait de suivre une classe préparatoire littéraire. Alors, ce professeur de mathématiques, qui s'appelait Monsieur Desboves, lui déclara « Vous auriez pu être un mathématicien, vous ne serez qu'un philosophe. » Alors, une chose est certaine, c'est que Monsieur Desboves ne fut qu'un mathématicien, alors que Bergson devint un grand philosophe, tout en étant mathématicien et tout en s'intéressant à de nombreuses sciences. Donc Henri Bergson entra à l'École normale supérieure en même temps que Jean Jaurès, qui fut son condisciple. Il obtint l'agrégation de philosophie également la même année que Jaurès. C'est intéressant de savoir tout ça. Alors au départ, bon, il enseigne la philosophie dans plusieurs lycées de province, notamment au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Il est ensuite nommé plus tard au lycée Henri IV comme professeur de Cagnes. Il soutient sa thèse de doctorat à Paris en 1889, thèse de doctorat extrêmement novatrice, qui va donner son premier grand ouvrage, L'essai sur les données immédiates de la conscience. Mais la Sorbonne n'y prête pas beaucoup attention. Elle ne prête pas surtout beaucoup attention à ce qui fait l'essentiel de son travail, c'est-à-dire son analyse de la durée, qui constitue l'essentiel du livre. Et quand Bergson fera acte de candidature pour enseigner à la Sorbonne, ben, sa candidature ne sera pas retenue. Alors, donc, il a une carrière de professeur pendant un certain temps. En 1892, il épouse Louise Neuburger. Et parmi les garçons d'honneur qui assistent au mariage de Bergson, il y a un certain Marcel Proust, qui est cousin de la mariée. Et de son mariage avec Louise Neuburger, enfin je ne sais pas comment on dit, eh bien de ce mariage venait être une fille, Jeanne. Alors, une seule fille, un seul enfant. Bergson publie en 1896 son second grand ouvrage, Matière et mémoire, dont nous parlions l'an dernier, qui va avoir un grand retentissement. Et 4 ans après cette publication, il entre au Collège de France, où il enseignera de l'année 1900 à l'année 1921. Alors, donc, voilà, si vous voulez, les étapes de sa carrière. Alors, parmi ses élèves, parce qu'il faut bien me dire peut-être quelques petites choses sur les élèves de Bergson, il y a eu des élèves qui sont devenus célèbres. Il y a eu le grand sociologue Maurice Halbwachs, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a eu une grande importance. Il y a eu Daniel Halévy, et puis surtout Charles Péguy, le poète Charles Péguy, qui était un admirateur de Bergson, et qui meurt au début de la guerre en 1914. Et qui fut du côté des Dreyfusards. Il prit fait et cause pour le capitaine Dreyfus. Bergson, étant juif, fut silencieux. Alors, la notoriété de Bergson était donc déjà très grande, hein, mais à partir de 1900, quand il entre au Collège de France, il devient, Il devient très célèbre. Des foules subjuguées d'étudiants, de curieux, de mondains. Tout Paris va aux conférences de Bergson, hein, au Collège de France. Eh bien, tous ces gens-là se pressent à ses cours. Et la salle du Collège de France, où il enseigne, est régulièrement bondée. Et on peut le dire ici, hein, Bergson fut de son vivant l'un des rares philosophes, de grands philosophes, à être célèbre. À tel point que le jeune Lévinas, qui va devenir un grand philosophe au XXe siècle, et qui est lituanien, qui est un juif lituanien, qui vient en France faire des études de philosophie après avoir suivi les cours en Allemagne de Husserl et de Heidegger. Eh bien, Lévinas explique que Paris, c'était Bergson. On n'imagine pas la célébrité qui fut celle de Bergson. Et donc, c'est à cette époque, en 1907, que Bergson écrit L'évolution créatrice, qui va alors effectivement avoir un succès énorme. Bergson fut invité partout en Europe, aux États-Unis. Il prononçait ses conférences en anglais. Et à chaque fois, un public très nombreux lui réservait un accueil retentissant, comme ce fut le cas, paraît-il, en 1913, à Broadway, à New York, donc, où il y eut un grand embouteillage à cause de la présence de Bergson. C'est pas tous les jours qu'un Français crée un embouteillage à New York. Alors, la célébrité internationale de Bergson, et puis sa grande aura, ne furent sans doute pas pour rien dans la décision que prit le gouvernement français en 1917 de lui confier une mission diplomatique de première importance auprès du président des États-Unis, le président Wilson. Il s'agissait de convaincre les États-Unis d'entrer en guerre aux côtés des Alliés, et c'est ce que firent les États-Unis. Et on peut le dire, je crois que le rôle de Bergson a été assez déterminant. Bergson s'engagea ensuite dans la vie politique de son pays, prit une part active dans les institutions internationales. Il accepta ainsi, après la guerre, la proposition qui lui fut faite de présider la commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations. Et il présida cette commission de 1922 à 1925. Malheureusement, dès 1925, il ressentit les premières atteintes d'un rhumatisme déformant qui lui laissera à partir de ce moment de moins en moins de répit. Et à demi paralysé, eh bien, il ne put pas se rendre à Stockholm pour recevoir le prix Nobel de littérature qui lui avait été attribué en 1928. Il n'y avait pas de prix Nobel de philosophie, hein. Il avait un prix Nobel de littérature. Donc vous voyez qu'il jouit d'une très grande célébrité. Alors, pour dire les choses simplement, on peut dire que personne n'a publié 8 livres, mais son œuvre s'articule essentiellement autour de 4 grands livres. Les autres livres, si vous voulez, sont des appendices, en quelque sorte. Alors je cite ces 4 grands livres, parce que c'est vrai que c'est eux qui sont les plus déterminants. Vous avez d'abord celui que j'ai cité au départ, « L'essai sur les données immédiates de la conscience », publié en 1889. Ensuite, vous avez « Matière et mémoire », publié en 1896. « L'évolution créatrice », donc le troisième, en 1907. Et « Les deux sources de la morale et de la religion », publié en 1932. Alors, je pourrais ajouter à ces 4 livres un cinquième livre qui a pour titre « La pensée et le mouvant », publié en 1934, c'est le dernier, Pourquoi ? Parce que c'est un recueil d'articles et de conférences qui ont été faites auparavant. C'est un recueil d'articles très, très utile, très intéressant, et qui permet d'ailleurs de s'introduire à la lecture de Bergson. C'est peut-être le livre que je conseillerais d'abord pour entrer dans la lecture de Bergson, parce que ce sont des articles relativement courts et assez lumineux. Et parmi les quatre autres livres de Bergson dont je ne vous ai pas parlé, je crois qu'il faut citer, parce que c'est assez connu, le célèbre travail qu'il a rédigé sur la question du comique, le rire. Le rire qui est publié en 1900, c'est un texte très célèbre. Alors, Bergson meurt en janvier 1941, à l'âge de 81 ans. Alors vous pourriez penser qu'il meurt de son problème de rhumatisme, pas du tout. Il meurt d'une congestion pulmonaire, parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Ah, vous êtes en 41, dans l'un des pires moments de l'histoire de France. C'est vrai, hein, c'est terrible. C'est vraiment le pire des moments. Hein. Et il est enterré assez discrètement au cimetière de Garches, auprès des siens. Il ne fait pas beaucoup de publicité, les Juifs. Et d'ailleurs, il avait un de ses collègues et amis, Jacques Chevalier, qui fut au départ nommé ministre de l'Instruction, enfin je crois, dans le gouvernement Pétain. Mais quand Jacques Chevalier assista aux obsèques de Bergson, ça lui fut violemment reproché. Il fut démis de ses fonctions, pour vous dire. Et alors qu'à la fin de sa vie, il s'était beaucoup rapproché du catholicisme et il comptait devenir chrétien, eh bien, il avait écrit dans son testament rédigé en 1937 les lignes suivantes, que je vous cite. « Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme, où je vois l'achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. » Alors, évidemment, il meurt en 1941, janvier 1941. Il ne saura pas, enfin, il n'assistera pas au raf du Veldiv. Je ne sais pas ce qui lui sera arrivé à lui-même, d'ailleurs, hein, puisque ces rafs du Veldiv ont lieu en juillet 1942. Mais il ne les connaîtra pas, mais il les avait d'une certaine manière pressentis. Alors, je peux terminer toutes ces considérations en disant une chose, c'est que la vie de Bergson, d'une certaine manière, est inséparable de celle de la Troisième République. Qu'on appellera d'ailleurs rétrospectivement la République des professeurs. Il est né quelques années avant son avènement, en 1875, hein, je crois que c'est en 1875 que la Troisième République est née, et puis il meurt un an après son anéantissement. Donc en 1941, 6 mois après. Donc venons-en maintenant à l'évolution créatrice. Et comme je vous l'ai dit, c'est la troisième grande œuvre de Bergson, chronologiquement parlant, puisqu'elle paraît en 1907. Alors aujourd'hui, nous allons lire son introduction, et je ne pense pas que nous aurons le temps d'entamer la lecture du premier chapitre. Alors, il est toujours assez difficile de lire l'introduction d'un ouvrage philosophique dans la mesure où l'auteur présente l'objet de son ouvrage, ses étapes, sa démarche, sans toujours s'expliquer de manière suffisante, puisque ce sera développé après. Pourtant, la lecture de l'introduction est indispensable si on veut avoir une idée assez précise du projet de l'auteur. Alors, parce que certains passages de cette introduction paraîtront inévitablement difficiles à comprendre pour un lecteur qui n'a pas lu l'ouvrage, eh bien, je ne les commenterai pas. ces passages. Je ne commenterai pas notamment le quatrième paragraphe de l'introduction, parce que nous aurons de toute façon l'occasion de revenir là-dessus. Et parce que ce serait trop compliqué, si vous voulez, d'entamer un développement à ce sujet. Alors, l'ambition de Bergson, c'est de saisir la nature de la vie. Alors, évidemment, le terme de vie ne va pas de soi. Qu'est-ce qu'il entend par là ? On comprendra au fur et à mesure. Pour reprendre une formule qu'il utilise au début du premier essai qui se trouve dans « La pensée et le mouvant », l'ambition de Bergson est, je cite, « de saisir la réalité où nous vivons ». La réalité où nous vivons. Alors, encore une fois, la formule paraît très vague. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Eh bien, on peut dire la chose suivante. La réalité où nous vivons, ce n'est ni l'ensemble des choses matérielles qui nous entourent, ni le sujet pensant que nous sommes, ni même leur juxtaposition. Cette réalité n'est en aucune façon un lieu de l'espace dont nous nous représenterions une partie. Cette réalité, c'est plutôt un mode d'être dont nous participons en tant qu'être vivant et pensant. C'est un mode d'être dont la nature matérielle participe aussi à sa façon. Alors évidemment, tout ça paraît assez peu clair pour l'instant. Je dirais que ce mode d'être, comme nous le verrons, c'est ce que Bergson appelle la durée. La durée, c'est finalement la question centrale de l'œuvre de Bergson. Qu'est-ce que désigne la durée ? Elle désigne le dynamisme par lequel la réalité se constitue. Pour le dire autrement, elle est ce qui fait que tout se fait. Elle est ce qui fait que tout se constitue, tout se forme. Alors évidemment, ces considérations pourraient laisser penser que la philosophie de Bergson est une philosophie purement spéculative, qui reste dans de pures abstractions. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que nous allons voir au contraire que c'est une philosophie qui s'attache à l'expérience et qui prétend saisir le réel en se tenant au plus près de notre expérience immédiate. Donc ce n'est pas une philosophie, justement, qui va se lancer dans la spéculation loin de l'expérience, au contraire. Elle a l'ambition de se tenir au plus près de l'expérience. Évidemment, pour l'instant, vous ne voyez pas très, très clairement ce que je vous dis, hein, mais ça se précisera. Par ailleurs, ce qui frappe dans l'évolution créatrice, c'est la référence fréquente de Bergson aux sciences de son époque, particulièrement aux sciences du vivant, comme l'embryologie, la physiologie, la théorie de l'hérédité, la zoologie, etc. etc. Bergson est quelqu'un d'extrêmement informé scientifiquement, qui lit effectivement les savants. Et parmi ces sciences, il y a les théories de l'évolution, comme celle de Lamarck, comme celle de Darwin. Et bien sûr, vous aurez pu remarquer en lisant l'introduction qu'il cite notamment un philosophe de l'évolution qui s'appelle Herbert Spencer, qui est un auteur très connu à l'époque, très à la mode. Aujourd'hui, on ne sait plus qui c'est. Mais il a joué un rôle extrêmement important au début du XXe siècle. Je vous en reparlerai. Alors, abordons maintenant l'introduction et suivons le texte pas à pas. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai numéroté les lignes, hein, j'ai numéroté les lignes pour faciliter la lecture. Hein. Toutes les cinq lignes. Alors, au début de cette introduction, Bergson prend acte de l'apport des théories d'évolution Et c'est par un examen de leurs conclusions qu'il commence sa réflexion. Je lis les 5 premières lignes. L'histoire de l'évolution de la vie, si incomplète qu'elle soit encore, nous laisse déjà entrevoir comment l'intelligence s'est constituée par un progrès ininterrompu, le long d'une ligne qui monte à travers la série des vertébrés jusqu'à l'homme. Elle nous montre dans la faculté de comprendre une annexe de la faculté d'agir, une adaptation de plus en plus précise et de plus en plus complexe et souple de la conscience des êtres vivants aux conditions d'existence qui leur sont faites. J'arrête là ma lecture. Alors, que nous montre donc l'histoire de l'évolution de la vie ? Disons les choses simplement. D'abord, que l'homme est un produit de l'évolution. L'espèce humaine n'est rien de fixe qui soit donné dès le départ. Bon, ça, il faut le dire. Hein, on est ici dans le cadre d'une théorie d'évolution. Donc l'homme est un produit. Deuxième chose, cette histoire nous montre que c'est l'intelligence qui fait l'humanité. L'humanité comme espèce. Et cette intelligence se constitue, selon Bergson, selon une ligne d'évolution. C'est l'expression qu'il emploie, selon une ligne d'évolution. Cela sous-entend qu'il y a d'autres lignes d'évolution. Il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs lignes d'évolution. Je ne sais pas encore bien ce que c'est qu'une ligne d'évolution, mais voilà ce que je comprends. En d'autres termes, c'est la constitution progressive de l'intelligence qui fait apparaître ce vertébré supérieur qu'est l'homme. C'est un vertébré supérieur. Hein, c'est comme ça qu'il en parle. Donc, vous comprenez bien ici que considérer que l'espèce humaine, c'est l'espèce intelligente, cela ne revient pas à faire de l'homme un être exceptionnel, un être à part, qui se distinguerait radicalement des autres animaux, des autres êtres vivants. Ce n'est pas le discours que tient Bergson. On verra d'ailleurs que la différence entre l'homme et les animaux ne se manifeste pas par une coupure marquée. On le verra en lisant le deuxième chapitre. Il y a une frange d'instinct en l'homme. L'intelligence, donc, c'est l'un des produits de l'évolution. Ce n'est pas l'aboutissement d'un plan qui aurait destiné par avance l'homme comme la créature, si vous voulez, privilégiée, comme la créature qui est au centre. Comprenez ici que personne n'est pas créationniste. Il n'est pas créationniste et il n'est pas non plus l'adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine du dessein intelligent. La doctrine du dessein intelligent, c'est-à-dire que c'est cette doctrine qui, d'ailleurs, aux États-Unis a beaucoup de succès, qui voit l'évolution comme la réalisation d'un plan divin. Hein ? Parce que, bon, ceux qui pensent, ceux qui valident cette doctrine du dessein intelligent, se réclament de la science, hein, bien sûr. Ils disent, c'est l'évolution. Bon, ils pensent l'évolution comme la réalisation d'un plan. C'est-à-dire qu'au fond, au départ, il y a Dieu. Alors, toujours est-il que c'est seulement une genèse biologique qui nous permettra de comprendre la fonction de l'intelligence et qui nous permettra d'en éclairer la nature. Ici, lisez avec moi les lignes 5 à 9. De là devrait résulter cette conséquence que notre intelligence, au sens étroit du mot, est destinée à assurer l'insertion parfaite de notre corps dans son milieu, à se représenter les rapports des choses extérieures entre elles, enfin à penser la matière. Et, si vous voulez, on arrête là. Donc, si j'ai bien compris, c'est parce que l'homme est un être vivant, contraint de s'adapter à un milieu d'existence, à un environnement, pour satisfaire ses exigences vitales, c'est parce qu'il est un être vivant qu'il devient un être intelligent. L'intelligence est une émanation de la vie. La vie, en tant qu'elle se confronte, hein, aux contraintes d'un environnement. Donc c'est la fonction vitale de l'intelligence qui permet d'en éclairer la nature. Vous voyez ? Et comme l'écrit Bergson, je crois qu'il faut bien relever cette formule, on l'a déjà citée, la faculté, c'est ligne 6-7, la faculté de comprendre, c'est-à-dire l'intelligence. Alors il dit plus loin l'entendement, ça veut dire la même chose, hein, l'intelligence ou l'entendement. La faculté de comprendre est une annexe de la faculté d'agir. Je souligne cette formule. C'est une annexe de la faculté d'agir. Mesurons ce que cela signifie. C'est-à-dire que loin d'être un pouvoir théorique, comme nous sommes enclins à le croire, l'intelligence est un pouvoir pratique au service de l'utilité vitale. Donc il ne s'agit pas d'une faculté contemplative, d'une faculté désintéressée. On se méprend si on voit dans l'intelligence une faculté purement théorique. Non. C'est d'abord une faculté pratique, qui est liée finalement aux besoins de la vie. Alors, en quel sens l'intelligence est-elle utile ? Eh bien, Bergson précise sa fonction, ligne 10-13. Ligne 10 à 13. Notre intelligence, excusez-moi, je me suis trompé. Non, c'est avant. Et notre intelligence est destinée, je crois l'avoir lu déjà, hein, au sens étroit du mot, est destinée, c'est ligne 7, est destinée à assurer l'insertion parfaite de notre corps dans son milieu, à se représenter les rapports des choses extérieures entre elles, enfin à penser la matière. Vous avez bien retenu. Alors, faire très attention au texte. Hein. Et vous allez voir qu'il y a une progression dans le texte. Donc, si j'ai bien compris, l'intelligence, c'est avant tout un outil. Et je dirais même que c'est notre meilleur outil d'adaptation au monde matériel. Elle ne vise pas à connaître la nature telle qu'elle est. Sa fonction essentielle, c'est pas de connaître. Vous voyez ? Elle ne vise pas à connaître la nature telle qu'elle est, elle cherche bien plutôt à en produire une représentation pour agir efficacement sur la matière. Cette représentation va lui être utile pour agir sur la matière. Comme le dit le texte, on peut ainsi se représenter les rapports des choses extérieures entre elles. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que fait l'intelligence ? Elle découpe la réalité selon une représentation spatiale, hein, puisque les choses sont conçues comme extérieures les unes aux autres, dans l'espace. Et grâce à cette représentation spatiale, eh bien, l'intelligence se donne une prise sur la réalité. Elle se donne une prise sur la réalité et elle peut agir ainsi efficacement sur elle. Vous voyez, c'est-à-dire au fond, l'intelligence, elle découpe la réalité de telle sorte qu'elle constitue des repères. Vous voyez ? Alors, pour éclairer notre texte, je citerai volontiers un extrait du deuxième essai qui se trouve dans La pensée et le mouvement, où Bergson explique de manière lumineuse la fonction d'intelligence. Donc, je vous ai photocopié le texte. Il est à la fin, je crois. Eh bien, lisons-le, et j'y reviendrai. Notre intelligence est le prolongement de nos sens. Avant de spéculer, il faut vivre. Et la vie exige que nous tirions parti de la matière, soit avec nos organes, qui sont des outils naturels, soit avec les outils proprement dits, qui sont des organes artificiels. Bien avant qu'il y eût une philosophie et une science, le rôle de l'intelligence était déjà de fabriquer des instruments et de guider l'action de notre corps sur les corps environnants. La science a poussé ce travail de l'intelligence beaucoup plus loin, mais elle n'en a pas changé la direction. Elle vise avant tout à nous rendre maîtres de la matière. Mais quand elle spécule, même quand elle spécule, elle se préoccupe encore d'agir. La valeur des théories scientifiques se mesurant toujours à la solidité de la prise qu'elle nous donne sur la réalité. Mais n'est-ce pas là, précisément, ce qui doit nous inspirer pleine confiance dans la science positive et aussi dans l'intelligence, son instrument? Bon, je laisse là pour l'instant le texte. Alors, si je résume bien, en étant fidèle aux propos de Bergson, on pourrait dire que l'intelligence est cet outil qui permet de mettre en œuvre les autres outils, que sont d'abord les outils naturels que sont nos organes, et les outils à proprement parler, qui sont des organes artificiels. Et l'intelligence, c'est cet outil qui permet de mettre en œuvre des outils. Et donc, quelle est sa fonction? Pourquoi met-elle en œuvre des outils pour fabriquer des choses, pour tirer parti de la matière, pour avoir prise sur elle? C'est au fond, vous voyez, la fonction essentielle de l'intelligence, c'est de tirer parti de la matière pour pouvoir agir sur elle, pour pouvoir l'exploiter, au fond, dans notre intérêt, pour nos besoins, pour satisfaire nos besoins. Donc la science, dans cette perspective, la science n'est jamais que dans le prolongement de cette recherche vitale qui consiste à se donner une prise sur la matière. Elle consiste, comme l'indique l'introduction, la science consiste essentiellement à penser la matière. Vous voyez ? Vous vous souvenez de la formule que je citais tout à l'heure, hein ? Penser la matière, c'est ce qui vient à la fin. Hein ? Il y a une sorte de progression. Eh bien, comme l'explique justement l'extrait de la pensée de Bouvant que je vous ai cité, vous voyez, au départ, donc, le rôle de l'intelligence, c'est de fabriquer des instruments, de guider l'action de notre corps sur les corps environnants, et puis, ensuite, la science, qui est le fruit de l'intelligence, eh bien, elle pousse plus loin ce travail, elle le pousse beaucoup plus loin, donc elle n'est aucunement en rupture avec la fabrication, elle n'est aucunement en rupture avec le souci pragmatique, puisque ce qu'elle vise avant tout, c'est de nous rendre maîtres de la matière. Au fond, la finalité essentielle de la science, c'est de nous rendre maîtres de la matière. D'où la nécessité de la pensée. Vous voyez ? Penser, la pensée est au service, ici, de l'utilité vitale. Alors, de cette analyse du rôle de l'intelligence, on devrait, en tout cas, tirer deux conséquences. Regardez ce que dit Bergson, ligne 9. Hein ? Regardez ce qu'il dit. Alors, si je ne me suis pas trompé dans les lignes, hein, attendez. Non, c'est ligne 6. Ligne 5, ligne 6. De là devrait résulter cette conséquence. Vous voyez, devrait résulter cette conséquense, c'est inconditionnel. Là, ligne 6. C'est dans le texte d'introduction. Hein. J'ai repris l'introduction. De là devrait résulter cette conséquence que notre intelligence, au sens étroit du mot, est destinée à assurer l'insertion parfaite de notre corps dans son milieu, à se représenter les rapports des choses extérieures entre elles, enfin à penser la matière. Je souligne le verbe « devrait ». C'est un conditionnel. Pourquoi ce conditionnel ? Parce que malheureusement, dans les faits, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce que font la plupart du temps les savants et les philosophes, eh bien, c'est d'ériger les procédés d'explication de l'intelligence qui conviennent à la matière en procédés d'explication qui peuvent tout expliquer de la réalité. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte du fait que l'intelligence, elle a surtout pour vocation de dominer la matière et que ces procédés d'explication, ils sont essentiellement destinés à cela. Et négligeant ce fait, eh bien, ils vont imaginer que l'intelligence peut tout expliquer, y compris ce qui n'est pas de l'ordre de la matière. Et c'est là leur erreur. Hein ? Mais on va voir cela, évidemment, de manière plus précise. Alors, je présente les deux conséquences que l'on doit tirer de l'analyse de l'intelligence que Bergson vient de faire, avant de les examiner de près. D'abord, vous avez la première conséquence, que je viens d'ailleurs de commencer à énoncer, et qui va des lignes 15, des lignes 15 à 18, voilà, ligne 15, est-ce qu'on est là ? Non, je pense qu'il y a un problème au niveau de la numérotation, je suis désolé. Notre intelligence, alors, et il faut que je retrouve exactement le passage. Notre intelligence se sent... Voilà, c'est ligne 9. Notre intelligence se sent chez elle en tant qu'on la laisse parmi les objets inertes, plus spécialement parmi les solides, où notre action trouve son appui. Et notre industrie, ses instruments de travail. Vous voyez, c'est ce passage-là. Et vous noterez une chose, c'est que Bergson n'écrit jamais l'intelligence tout court. Vous avez noté ça ? Il dit notre intelligence, ou il dit aussi l'intelligence humaine. Il marque ainsi que cette faculté, c'est une faculté humaine, rien qu'humaine. C'est-à-dire, au fond, c'est d'une certaine façon une critique. Vous voyez ? C'est une faculté qui est humaine, rien qu'humaine, donc elle a nécessairement des limites. Notre intelligence. Il ne parle pas de l'intelligence dans l'absolu. Et donc, selon la première conséquence que développe Bergson, l'intelligence est à son aise lorsqu'elle a affaire à de l'immobilité, lorsqu'elle a affaire à de l'inerte, à du solide, à ce qui ne bouge pas, à ce qui ne change pas. Deuxième conséquence, alors là, comme ma pagination, ma numérotation ne correspond pas à celle que j'ai faite là, je suis désolé, elle se trouve plus loin, dans le paragraphe qui se trouve plus loin, on va la retrouver, c'est tout simplement la ligne 16. De là devrait résulter aussi que notre pensée, sous sa forme purement logique, est incapable de se représenter la vraie nature de la vie, la signification profonde du mouvement évolutif. Vous voyez, elle est incapable de se représenter la vraie nature de la vie, parce que la vie, justement, au contraire de l'inerte, au contraire du solide, elle est essentiellement mobilité, elle est essentiellement fluidité, changement. Et elle sera constituée, justement, par la durée. C'est ce qu'on verra plus tard. Donc, lorsque l'intelligence veut appréhender la nature de la vie, elle se trouve en échec. Elle se trouve en échec, comme l'écrit plus loin dans le paragraphe Bergson, c'est ligne 29. Notre raisonnement, si sûr de lui quand il circule à travers les choses inertes, se sent d'ailleurs mal à son aise sur ce nouveau terrain. Vous voyez ? Donc voilà les deux conséquences que je vous présente. Maintenant, on va les examiner le plus près, si vous voulez. Je crois que c'est important. Reprenons la première. Donc, selon Bergson, nous devrions nous rendre compte du besoin d'immobilité, de fixité de notre intelligence, qui a besoin en effet de se donner des prises pour agir sur la matière. C'est là la condition de son efficacité. Et voilà pourquoi l'intelligence, dit Bergson, voilà pourquoi l'intelligence se sent à l'aise avec les objets inertes, plus spécialement avec les solides. Partant de là, c'est la suite du texte, il n'y a pas lieu de s'étonner que l'intelligence forme ses concepts à l'image des solides. Regardez bien cette expression. C'est la ligne 11. Hein ? Nos concepts ont été formés à l'image des solides. Vous avez vu cette formule ? Bon, eh bien, retenez-la bien. C'est-à-dire que ce que personne va nous expliquer, c'est que la science pousse le travail de l'intelligence dans le même sens que la fabrication pour se rendre maître de la matière. Et donc, ces concepts sont comme des repères immobiles de la pensée qui lui permet de produire, d'élaborer une représentation opératoire du réel, c'est-à-dire d'organiser, de calculer, de prévoir les effets de notre action sur la matière. Vous voyez ? Donc l'intelligence, finalement, elle se transforme en science, elle devient science à partir du moment où elle organise en quelque sorte la pensée, hein, selon des concepts qui lui permettent, au fond, de prévoir les effets de l'action sur la matière. C'est comme ça qu'il faut l'envisager. Et notre logique, la logique qui caractérise normalement dans la pensée ce qu'il y a de plus formel, de plus abstrait, hein, la logique c'est quelque chose d'abstrait, hein, de formel pour nous, eh bien, notre logique, dit Bergson, regardez bien, elle est surtout la logique des solides. Drôle d'expression. Notre logique, il dit notre logique, et surtout la logique des solides. Alors, expliquons ce point. Là, je développe un petit peu pour que vous mesuriez l'importance de cette formule. Notre logique, vous le savez tous, elle repose sur deux principes essentiellement. Le principe d'identité et le principe de contradiction. Ne vous en faites pas, ce n'est pas sorcier. Qu'est-ce que c'est que le principe d'identité ? Que stipule le principe d'identité ? Tout simplement qu'une chose est ce qu'elle est et qu'elle ne peut pas être différente d'elle-même. Un chat est un chat. Voilà. Ça ne peut pas être autre chose, ça peut être un chien. Un chat est un chat. Hein ? Et tout ce qu'il est, c'est ce qu'il n'est pas par ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que stipule le principe de contradiction ? Bah, qu'il est impossible qu'une même chose soit et en même temps ne soit pas. Ou qu'elle ait en même temps une propriété et en même temps qu'elle ne l'est pas. Vous voyez ? Bon, on va prendre un exemple, hein, si vous voulez. Par exemple, je ne peux pas dire que Socrate est petit et grand en même temps. Je ne peux pas. Par contre, je peux dire qu'il était petit et qu'il est devenu grand dans le temps. Parce que ce n'est pas en même temps. Et le principe de contradiction ne vaut que dans la simultanéité. D'accord. Ainsi, notre logique exclut le changement, la mobilité, la fluidité. Vous voyez, notre logique, au fond, a besoin d'immobilité, d'identité. Elle se déploie dans la simultanéité. Elle ne peut pas comprendre comment on passe de petit à grand. Le passage, le changement, est impensable pour elle. Mais regardez bien, Bergson ne dit pas seulement notre logique et surtout la logique des solides. Il dit aussi, regardez bien, c'est un peu après, par là même, écrit-il, notre intelligence, c'est ligne 13, je crois, notre intelligence triomphe dans la géométrie où se révèle la parenté de la pensée logique avec la matière inerte. Notre intelligence triomphe dans la géométrie. Alors, ça mérite une explication. La géométrie, vous le savez tous, c'est une science mathématique qui se représente l'espace comme la coexistence simultanée de choses qui sont extérieures les unes aux autres. Coexistence simultanée de choses extérieures les unes aux autres. Hein, c'est ça l'espace. La physique moderne, la science moderne qui naît avec Galilée au XVIIe siècle, eh bien, elle se présente elle-même comme une géométrisation de la nature. C'est-à-dire, d'ailleurs, Galilée le dit, la nature est écrite en langage mathématique. C'est-à-dire que, désormais, on va considérer les corps physiques comme des figures géométriques, comme des surfaces, comme des volumes. Vous voyez ? On va traiter la nature de manière géométrique. Alors, conséquemment, et c'est ça qui est important, le mouvement d'un corps, eh bien, peut être considéré comme le déplacement d'un mobile qui parcourt un espace. Et le mouvement est envisagé comme le déplacement d'un mobile dans un espace. Et la physique moderne, voyez-vous, spatialise ainsi le mouvement en le représentant géométriquement comme une série de positions, comme la série des positions d'un mobile qui se succède sur une trajectoire. Hein, c'est comme ça que le mouvement est conçu, hein, spatialement. Hein, la succession d'un certain nombre de positions sur une trajectoire. Bon. Mais si vous y réfléchissez bien, il ne s'agit pas d'une vraie succession. Il ne s'agit pas d'une vraie succession, parce que cette succession, elle est ramenée à de la simultanéité. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est que les positions du mobile, elles sont représentées comme juxtaposées sur une même ligne géométrique. Vous voyez ? T1, T2, T3, T4, voilà les différentes positions. Mais elles sont représentées géométriquement sur une ligne, c'est-à-dire qu'au fond... Oui, c'est de la succession, en fait, c'est de la juxtaposition, puisque les différentes positions, finalement, elles sont les unes à côté des autres. Hein. C'est comme ça qu'on se représente le mouvement. Donc la science, la physique, la science moderne, quand elle explique le mouvement, au fond, elle nie le mouvement. Elle n'explique pas le passage d'une position à une autre. Elle exclut la mobilité. Vous voyez ? Et alors, au fond, c'est la grande prouesse de la science moderne, c'est d'expliquer la mobilité par de l'immobilité. Hein, le mouvement par quelque chose qui ne change pas. Mais c'est comme ça que procède notre intelligence. C'est comme ça. Elle exclut le temps dans ce qu'il a d'essentiel, dans ce que Bergson va appeler la durée. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y ait mobilité, qu'il y ait variation. Le temps, c'est de la continuité. Hein, la durée, c'est quelque chose de continu et d'indivisible, tandis que l'espace, c'est quelque chose d'homogène et de divisible. Vous voyez ? Alors, on ne peut pas reprocher ça à la science, c'est normal qu'elle procède comme ça. Mais elle procède, vous voyez, pour, comme dit Bergson, se donner des prises sur la réalité. Vous voyez ? Alors, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir là-dessus. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Hein ? Bon. À l'inverse, pourquoi l'intelligence, puisque c'est la deuxième conséquence, pourquoi l'intelligence est-elle mal à l'aise lorsqu'elle s'applique à ce que Bergson appelle les choses de la vie ? Les choses de la vie, c'est dans le deuxième paragraphe, hein, c'est ligne 25, hein, il parle des choses de la vie, l'expression « choses de la vie ». Qu'est-ce qu'il entend par les choses de la vie ? Tout simplement les êtres vivants. Les êtres vivants, dont l'individualité n'a rien à voir avec celle des objets inertes. L'individualité d'un vivant, ce n'est pas la même chose que l'individualité d'un objet inerte. Et vous allez voir justement qu'à l'épreuve des êtres vivants, eh bien, l'intelligence est à la peine. Elle ne parvient pas à soumettre ces êtres vivants à ces catégories, à ces concepts, à ce que Bergson appelle aussi ces cadres de pensée. Voyez ? Alors, lisez bien ce passage. Il se trouve alors dans le deuxième paragraphe, vers la fin. Oui, c'est ça, ligne 27. Regardez bien, ligne 27. Vous avez repéré. En vain, nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent. Ils sont trop étroits, trop rigides, surtout pour ce que nous voudrions y mettre. Hein ? Voilà ce que dit Bergson. Et là, il poursuit en disant « Notre raisonnement, si sûr de lui quand il circule à travers les choses inertes, se sent d'ailleurs mal à son aise sur ce nouveau terrain. » Je vais prendre deux exemples. Ce sont des exemples que donne Bergson. Prenez par exemple l'exemple des catégories d'unité et de multiplicité. Les concepts d'unité et de multiplicité. Ce sont des catégories de notre intelligence. Et si notre intelligence élabore ces catégories, bah c'est en fonction de l'espace. C'est en fonction de l'espace, en se représentant les choses comme extérieures les unes aux autres. Dans l'espace seul, existent des choses distinctes. C'est l'espace qui vous permet de distinguer des choses, hein, qui sont les unes à côté des autres. Bon. Et ces choses, elles sont une, chacune, en tant qu'individu, séparées des autres, et elles sont multiples en ce qu'elles sont plusieurs à coexister. Voilà comment on forme des idées d'unité et de multiplicité. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein ? Chaque chose de l'espace est une, au sens où c'est elle et pas une autre. Et puis, il y a pluralité. Pluralité de choses. Donc, on parle de multiplicité, au sens où elles coexistent les unes avec les autres. Regardez la ligne. Regardez, par exemple, ce que dit Bergson ici, je lis ligne 25. Ligne 25. Qui dira où commence et où finit l'individualité ? Si l'être vivant est un ou plusieurs ? Si ce sont les cellules qui s'associent en organisme ou si c'est l'organisme qui se dissocie en cellules, etc., etc. L'individualité d'un être vivant. L'individualité d'un être biologique. On dit un organisme. C'est une individualité qui n'a rien d'absolu. Comme celle d'un objet inerte, qui en principe, ne diffère pas de lui-même. En tout cas, pas par lui-même. Hein ? Il n'y a pas dans l'objet inerte quelque chose qui fait qu'il devient autre chose que lui-même. Hein ? Il est lui-même. Il y a une individualité absolue dans les objets inertes. Ce n'est pas le cas de l'individualité des êtres vivants. En tant qu'organisme, un être vivant, c'est un organisme. Un être vivant est à la fois un et multiple. Multiple en ce qu'il est organisé, composé de plusieurs parties. Vous voyez, il y a de la multiplicité en lui. Et bien sûr, il est un au sens où il est un tout. Vous êtes d'accord ? Bon. Quant à son individualité, elle n'est pas clairement délimitée, si vous réfléchissez bien. Jugez-en par le phénomène de la reproduction. L'individualité d'un être vivant n'est pas délimitée, puisqu'il se reproduit en un autre être. Hein ? Comme dit Bergson, où commence et où finit l'individualité ? Vous voyez, c'est une individualité relative. Alors, conclusion, comme le disait Bergson, notre intelligence est très mal à l'aise quand il s'agit d'aborder, effectivement, les êtres vivants. Alors, justement, c'est là que... vous voyez, j'espère que ce n'est pas compliqué. Hein, ça a été bon. Alors, c'est bien, donc, l'oubli. C'est bien l'oubli de l'origine biologique et de la fonction vitale de l'intelligence qui nous conduit ici à négliger les deux conséquences que je viens de développer. Et cet oubli, comme va le montrer Bergson, surtout dans le deuxième paragraphe, cet oubli nous conduit à prétendre que notre intelligence peut embrasser la vie. Embrasser, c'est-à-dire la contenir. Qu'elle peut appréhender toute la réalité par ses seuls moyens. Donc cet oubli conduit à faire de l'intelligence, comme va l'écrire plus loin Bergson, un soleil qui illumine le monde. Hein, comme si l'intelligence était capable de voir l'intégralité du réel, par ses seules ressources. Voilà ce que nous sommes tentés de penser. Parce que nous oublions le caractère limité de l'intelligence, son origine biologique. Nous oublions, comme dit Bergson au début du second paragraphe, que l'intelligence n'est qu'une émanation de la vie, qu'elle n'en est qu'un aspect. Hein. Nous n'en voyons pas, donc, les limites. Alors, pour mieux se faire comprendre de son lecteur, vous aurez remarqué que Bergson utilise souvent des métaphores. Par exemple, dans le second paragraphe, voyez, ligne 20, eh bien, il compare l'intelligence à un alluvion déposé par un fleuve, étant entendu ici que le fleuve symbolise, au fond, le mouvement de l'évolution. Vous voyez, le fleuve, c'est le mouvement de l'évolution. Vous voyez, par exemple, lisez avec moi, ligne 20, déposé en cours de route par le mouvement évolutif, comment s'appliquerait-elle le long du mouvement évolutif lui-même? Déposé, vous voyez, comme un alluvion, hein, comme un fleuve dépose des alluvions. Et vous avez plus loin une deuxième métaphore qui est peut-être encore plus explicite, c'est la métaphore du galet laissé sur la plage par la mer, par une vague, qui, dit Bergson, ne peut dessiner la forme de la vague qui l'a apportée. Hein, c'est deux lignes plus loin. Hein, vous avez repéré, c'est, je pense, ligne 23. Hein, le galet laissé sur la plage ne peut pas dessiner la forme de la vague qui l'apporta. Alors, pourquoi cette deuxième métaphore est intéressante? Parce qu'elle souligne le contraste entre la solidité, la rigidité du galet, hein, quelque chose de solide, hein, et, au fond, ce galet symbolise ici l'intelligence. Et puis, d'autre part, la fluidité de la vague. Hein, la vague, c'est quelque chose qui s'écoule. Et il y a un contraste entre les deux. Alors, si l'intelligence n'est qu'une émanation de la vie, si elle n'est qu'un produit déposé par le mouvement de l'évolution, comment, dès lors, peut-elle prétendre saisir la nature de ce mouvement? Comment peut-elle prétendre saisir la nature de la vie qui l'a engendrée? Comme dit Bergson, je cite, ligne 22, « Autant vaudrait prétendre que la partie égale le tout et que l'effet peut résorber en lui sa cause ou que le galet laissé sur la plage dessine la forme de la vague qu'il apporta. Hein? Autant vaudrait prétendre que la partie égale le tout. » Donc, si l'intelligence n'est qu'une partie déposée par le tout de la vie, elle ne peut pas prétendre surplomber la vie, elle ne peut pas prétendre la surplomber, elle ne peut pas prétendre la soumettre à ses catégories. Alors, il ne s'agit pas de disqualifier l'intelligence. Ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas de lui ôter toute valeur, toute compétence. Il s'agit de la remettre à sa place. Il s'agit de la remettre à sa véritable place et de comprendre ainsi les limites de l'intelligence. C'est le premier geste qui doit être celui du philosophe. Hein, le philosophe, il doit commencer par là, par s'interroger sur les limites, au fond, de l'outil que nous utilisons pour connaître l'intelligence, ordinairement. Malheureusement, c'est ce que ne font pas le plus souvent les philosophes. notamment ce philosophe évolutionniste qui est Herbert Spencer. Alors, ici, au début de l'introduction, Bergson ne le nomme pas, il le nomme seulement à la fin de l'introduction. Et pourquoi ce philosophe a tant d'importance pour Bergson? D'une part, parce qu'évidemment, il est célèbre, il a pignon sur rue au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Et puis aussi parce que Herbert Spencer a fortement marqué Bergson dans sa jeunesse. C'est la lecture de Spencer qui l'a en quelque sorte poussé à la philosophie, surtout. Alors, deux mots sur Spencer, Herbert Spencer. C'est un Anglais, né en 1820, mort en 1903, et qui prétend notamment tirer les leçons de Darwin. Alors Darwin, il publie L'origine des espèces en 1859. Hein. Bon, alors, Spencer écrit un certain nombre d'ouvrages, et c'est à lui, alors je résume très grossièrement, hein, bien sûr, c'est à lui qu'on doit surtout l'idée qu'on attribue à tort à Darwin, selon laquelle la loi de sélection naturelle est une loi d'évolution des sociétés humaines. Ce qu'on a appelé le darwinisme social. Ça, c'est Spencer. Mais ce n'est pas Darwin. Vraiment pas Darwin. Si on lit Darwin, on lui fait dire beaucoup de bêtises à Darwin. Il ne dit certainement pas ça. Donc c'est Spencer qui est à l'origine de ce qu'on a appelé le darwinisme social. Mais enfin, il n'a pas fait que ça tout de même, hein, Spencer. Personne ne l'a pas lu pour ses considérations sociologiques. Hein. Bon. Alors, je cite, si vous voulez, Bergson. Regardez le début du troisième paragraphe, ligne 34. Pourtant, la philosophie évolutionniste étend sans hésitation aux choses de la vie les procédés d'explication qui ont réussi pour la matière brute. Vous voyez, vous avez repéré ce passage? Donc, au lieu de reconnaître l'intelligence comme étant seulement, comme dit aussi Bergson, un effet local de l'évolution, dont la lueur limitée permet à des êtres vivants de s'éclairer pour agir, eh bien, la philosophie évolutionniste fait de l'intelligence, je cite, un soleil qui illuminerait le monde. Alors là, regardez, l'expression se trouve ligne 38, voyez, hein, elle fait de cette lanterne, la lanterne ici symbolise l'intelligence, hein, elle fait de cette lanterne manœuvrée au fond d'un souterrain un soleil qui illuminerait le monde. Voyez, voilà ce que fait la philosophie évolutionniste, qui est surtout celle de Spencer. Alors, ici, petite remarque. À l'évidence, Bergson se permet une allusion ironique à la fameuse allégorie de la caverne. La fameuse allégorie de la caverne qui se trouve au livre 7 de la République de Platon. Alors, pourquoi cette allusion? Parce que, d'une certaine façon, Spencer prétend, comme Platon, faire de l'intelligence un soleil qui illumine le monde, qui éclaire tout. Hein, c'est pour ça qu'il fait ce rapprochement. Alors, vous m'excuserez, mais je pense que, comme il y a parmi vous des personnes qui ne connaissent pas nécessairement l'allégorie de la caverne, et que vous n'êtes pas censé la connaître, je vais expliquer très brièvement de quoi il s'agit, et vous verrez ainsi l'intérêt de cette référence allusive dans le propos de Bergson. L'allégorie de la caverne, c'est une image, hein, et elle est destinée à figurer de manière pédagogique, grâce à toute une mise en scène, au fond le processus qui mène de l'ignorance au savoir. Elle symbolise au fond le processus qui permet de passer l'ignorance au savoir. Et selon cette allégorie, au fond, les hommes sont tous comme des prisonniers enchaînés depuis leur naissance au fond d'une caverne, condamnés à ne voir devant eux que des ombres qui défilent sur la paroi de la caverne. Au fond, un peu comme au cinéma, on voit un écran. Et sur l'écran, vous avez les images du film qui défile. Pareil. Et comme ces hommes, puisqu'ils sont prisonniers, ne peuvent pas se retourner, ils croient forcément que les ombres qui défilent devant leurs yeux sont la réalité elle-même. Donc ils ne peuvent pas se rendre compte que ce ne sont que les copies d'objets qui sont manipulés derrière eux par des marionnettistes, par des prestidigitateurs, qui agitent des statuettes, comme au théâtre de Guignol, si vous voulez. Vous voyez, vous avez, représentez-vous un peu la scène, vous avez derrière eux, mais ils ne voient pas, évidemment, ils ne voient pas les marionnettistes qui se trouvent derrière. Les marionnettistes sont en train de manipuler les statuettes, et évidemment, comme il y a un feu dans la caverne, une lanterne, le feu projette la copie, donc l'ombre, de ces statuettes sur la paroi de la caverne qui se trouve devant les prisonniers. Vous voyez, le dispositif, vous pouvez l'imaginer assez facilement. Alors, si l'on en croit Bergson, vous voyez, ce feu, cette lueur, comme il dit, elle vient, je cite, « d'une lanterne manœuvrée au fond d'un souterrain ». Évidemment, c'est la caverne. Et cette lueur, toujours selon Bergson, éclaire le souterrain. Elle permet aux êtres vivants qui y demeurent d'agir efficacement. Et il ne dit pas les hommes, il dit les êtres vivants. Et grâce à cette lueur que les êtres vivants, que sont les hommes, peuvent se repérer et agir efficacement. Et cette lueur, c'est celle qui est ici produite par la lanterne, qui symbolise notre intelligence. Alors bien sûr, pour Bergson, l'intelligence n'est pas plus que cette lanterne, qui est au fond du souterrain, et qu'on ne peut aucunement confondre avec un soleil qui illuminerait le monde, vous comprenez bien. Alors si maintenant je reviens à l'allégorie de Platon, le monde de la caverne, vous voyez, symbolise l'ignorance. Elle symbolise l'ignorance des hommes qui croient que pour connaître les choses, il suffit de les voir par leurs yeux. Vous voyez ? Par leur sens. Il se fie à leur sens. Et c'est là, c'est en cela qu'ils sont ignorants. Or, pour accéder à la véritable connaissance des choses, il faut sortir de la caverne. Pour voir enfin les choses telles qu'elles sont réellement, à la lumière du jour, éclairées par le soleil. Et voyez bien que cette connaissance, qui se trouve en dehors de la caverne, le monde hors de la caverne symbolise la connaissance, et la connaissance dispensée par l'intelligence. La vraie connaissance est celle que nous donne l'intelligence, qui au fond fonctionne comme le soleil. Vous voyez ? Et non pas par les sens. C'est là qu'on s'illusionne quand on s'imagine que ce sont les sens qui nous permettent de connaître les choses. Donc il faut rompre avec cette illusion et sortir de la caverne pour comprendre que connaître, c'est connaître les choses par l'intelligence. Alors d'ailleurs, il ne suffit pas de détacher un prisonnier au fond de la caverne pour lui permettre d'apercevoir les statuettes qui sont derrière lui. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, bien sûr qu'il y a un progrès. Désormais, il s'aperçoit que ce qu'il voyait, ce n'était que les copies de statuettes qui étaient derrière lui, qui sont derrière lui. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant parce que pour le faire vraiment sortir de l'ignorance, il faut vraiment qu'il sorte de la caverne et il verra alors que les vrais objets, ce sont ceux qui sont en dehors, qui sont éclairés par le soleil, dont les statuettes manipulées par les marionnettistes ne sont que des copies. Vous voyez ? Les statuettes ne sont que des copies de ces choses qui se trouvent à l'extérieur. Vous voyez le dispositif ? Donc, vous voyez que le chemin qui mène de l'ignorance au savoir exige qu'on sorte de la caverne et qu'on comprenne une fois pour toutes que connaître, ce n'est pas connaître les choses par ses sens, mais par l'intelligence, vous voyez ? L'intelligence qui éclaire. Voilà pourquoi on peut rapprocher ici Spencer, la philosophie évolutionniste de Spencer, de Platon. Ils ont tous les deux cette prétention illusoire que, au fond, l'intelligence est capable de tout connaître. Ils ont la même conviction. Or, loin de connaître réellement la vie, eh bien, l'intelligence n'accède, comme le dit Bergson, dans la philosophie évolutionniste, en tout cas de Spencer, elle n'accède, je cite, qu'à une imitation du réel. Elle n'accède qu'à une imitation du réel, c'est ligne 43. Elle n'accède seulement qu'à une imitation du réel, ou plutôt une image symbolique. Au fond, le philosophe évolutionniste, quand il prétend tout expliquer par l'intelligence, en fait, il ne fait qu'imiter le réel. Il ne fait que se donner une représentation symbolique du réel. Il ne permet pas, il n'accède pas véritablement à la réalité. Et plus loin, à la fin de l'introduction, Bergson va montrer la méthode, la façon de faire de Spencer. C'est vers la fin, c'est vers ligne 100. Ah non, attendez, non, parce que j'ai dit des bêtises, moi j'ai... Oui, c'est vers ligne 100 à peu près. C'est vers la ligne 100. Quand il parle du faux évolutionnisme de Spencer, ben, pourquoi c'est un faux évolutionnisme de... Parce que qu'est-ce que fait Spencer? Il découpe la réalité actuelle déjà évoluée en petits morceaux, non moins évolués, puis il la recompose avec ses fragments. Et il se donne ainsi par avance tout ce qu'il s'agit d'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'explique pas, il ne montre pas comment fait l'évolution. Il parle de ce qui est évolué, de ce qui est déjà fait. Donc ce qui est important, si on est vraiment un philosophe de l'évolution, c'est de montrer comment se fait l'évolution, comment se font les choses, mais pas de les considérer une fois qu'elles sont faites, pour ensuite essayer de les recomposer artificiellement. Par l'intelligence. Voilà, c'est ça, c'est en cela que Spencer s'égare. Mais parce qu'il croit, naïvement aussi, comme Platon, que l'intelligence va pouvoir tout comprendre. Et donc, est-ce qu'il faut maintenant conclure que la vie est inconnaissable ? Puisque l'intelligence échoue à la comprendre, elle ne peut pas y arriver, est-ce qu'on doit conclure ? Ma foi, la vie, le réel, est inconnaissable, il est hors de notre portée. Est-ce que c'est ça la conclusion ? Ou pour le dire comme Bergson, c'est ligne 63. Faut-il donc renoncer, c'est au début du paragraphe, ligne 63, faut-il donc renoncer à approfondir la nature de la vie. Bon. C'est ligne 63. Non ? Vous tournez la page ? Il y a un problème. Excusez-moi, là, c'est un problème de... Il faudra que je fasse attention à ça. Là, vous n'avez pas la même pagination ? Bon, disons que c'est un paragraphe qui commence par « Faut-il donc renoncer à approfondir la nature de la vie ?» C'est le quatrième.
On l'avait en mail.
Ça marche pas ?
Non, faut-il renoncer à
Ou alors j'ai inversé les pages ? Vous avez trouvé le passage ?
Non, moi je ne l'ai pas. Par la fin, j'ai
imprimé
chez moi.
Ah oui, parce que vous avez la page 1 et la page 3 ensemble. Donc là, je vous ai foiré tout. Excusez-moi.
Non, j'ai imprimé chez moi.
Non, moi, j'ai pas l'esprit pratique. Je suis incapable de fabriquer quelque chose. Et donc, effectivement, j'ai tout mélangé. Je suis désolé. Oui, c'est embêtant. Bon. Je m'aperçois de ça. Alors, donc, c'est dramatique. Non seulement les numéros de ligne ne correspondent pas, et en même temps... Alors, je vais vous citer le passage. Bon, enfin, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas très grave. Non, mais c'est embêtant tout de même. Mais ça fait rien. Alors.
C'est celui qu'on ne devrait pas lire.
Voilà. Est-ce qu'il faut renoncer, voilà, à approfondir la nature de la vie? C'est ça la question de Bergson. Est-ce qu'il faut considérer qu'elle est inconnaissable? Alors, on pourrait être tenté de conclure ainsi. On pourrait être tenté de conclure comme un autre grand philosophe auquel pense Bergson, hein, mais il ne le nomme pas dans son introduction. Mais on a deviné. On a deviné quand on connaît un peu. Et on n'a pas besoin de beaucoup connaître pour comprendre de quoi il va s'agir. Ce grand philosophe, c'est Emmanuel Kant. C'est Emmanuel Kant, philosophe célèbre de la fin du XVIIIe siècle. Et je vais essayer de très brièvement résumer ce que dit Kant sur la question de la connaissance. Pas très compliqué à comprendre. Au fond, pour Kant, notre intelligence ne peut pas connaître le réel. Elle ne peut pas connaître le réel car nous ne pouvons connaître le réel que tel qu'il nous apparaît à travers le filtre de nos sens. Hein, le réel qui est en dehors de moi, je ne peux pas savoir ce qu'il est en lui-même. Je ne le connais qu'à travers mes sens, sensations. Vous voyez, pas compliqué ça. Hein. Donc je ne peux rien dire du réel. Je sais qu'il existe, mais il est inconnaissable. La connaissance scientifique, hein, est relative à l'homme. Elle est relative à l'homme. Attention, ça ne veut pas dire que chacun dit ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ça. Mais nous ne connaissons les choses que telles qu'elles apparaissent à nos sens et en tant que nos sensations sont structurées par l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence structure, hein, structure effectivement la manière dont les choses nous apparaissent. Hein. Elle, l'intelligence, si vous voulez, subordonne les sensations aux concepts. Et c'est comme ça que lorsque les concepts s'appliquent aux sensations, eh bien, on a affaire à une connaissance. Vous voyez ? Mais la connaissance, elle ne peut pas prétendre connaître le réel en lui-même. C'est pas... Non. Alors voilà, ça, c'est la conclusion de ce grand philosophe Kant. Hein ? Et pour lui, dès que notre intelligence prétend s'élever au-delà des sens, au-delà d'expérience, eh bien, elle s'égare. Elle s'égare. La métaphysique, hein, qui prétend saisir le réel, c'est une illusion. Une illusion dont on ne peut pas se passer, mais c'est une illusion. Et on pourrait même dire, comme le dit Bergson, c'est un rêve. Enfin, selon Kant, c'est un rêve. C'est un rêve. Alors, on pourrait dire, si Kant reprenait la formule de Platon, il pourrait dire que, au fond, il n'y a de connaissance que dans les limites de la caverne, que dans les limites de l'expérience. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la caverne. La connaissance, elle ne peut être que dans la caverne. C'est comme ça. Alors, d'une certaine manière, on l'a vu, Bergson reprend le geste critique de Kant. Comme lui, il montre les limites de l'intelligence. Comme lui, il montre qu'on ne peut pas prétendre saisir la réalité par les seules ressources de l'intelligence. Sur ce point, ils sont d'accord. Mais l'explication que Bergson donne des limites de l'intelligence et ses conclusions diffèrent de celles de Kant. Et je voudrais qu'on comprenne bien, c'est assez facile à comprendre. Si l'intelligence est limitée, ce n'est pas, comme le dit Kant, parce qu'elle doit malheureusement s'appliquer à nos sens pour produire une connaissance. Hein. Ce n'est pas à cause du filtre des sens que notre intelligence est limitée. Hein. C'est parce que, ça, c'est ce que dit Kant, pas ce que dit Bergson. Non, l'intelligence est limitée en elle-même parce que ces procédés d'explication ne peuvent que masquer la réalité en la soumettant à un découpage dont la fonction est pratique. Souvenez-vous de ce que disait ici, au départ, personne. Au fond, l'intelligence, elle a besoin de se donner des repères, d'avoir des vues, hein, d'avoir prise sur le réel, donc elle le découpe à sa façon, hein, et donc elle le limite, hein, elle le déforme. Hein, bon. Non, c'est pas du tout ce que vous voyez, qu'il y a une différence ici entre Kant et Bergson. Kant se fait illusion sur la nature de l'intelligence. Il considère les catégories de l'intelligence comme des catégories immuables. Hein, comme des catégories immuables. Et il oublie que les catégories de l'intelligence, elles résultent de l'adaptation de l'être vivant que nous sommes à la matière. Il oublie cela. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première différence. Et puis la deuxième, c'est que Bergson ne partage pas du tout la conclusion négative de Kant. Il reproche d'ailleurs, alors malheureusement, on n'aurait pas le texte, il reproche d'ailleurs à Kant de tomber dans une attitude excessive qui est, au fond, l'attitude symétrique inverse de celle de Platon. Je vous cite un passage très simple. Je ne sais pas si vous l'aurez, mais je ne crois pas. Voilà ce que dit ici Bergson, en faisant allusion et à Platon, puis à Kant. Mais c'est vraiment, après beaucoup d'orgueil pour l'intelligence, ça, c'était l'attitude de Platon, beaucoup d'orgueil pour l'intelligence, un excès d'humilité, et ça, c'est l'attitude de Kant. Kant, il pratique un excès d'humilité. Et l'excès d'humilité consiste à nier que l'intelligence puisse connaître quoi que ce soit du réel. C'est-à-dire que cet excès d'humilité consiste à conclure que l'intelligence est condamnée à rêver dans de vaines spéculations quand elle prétend accéder à la réalité par ses seules ressources. Ce n'est pas du tout ce que conclut Bergson. Sans doute, l'intelligence ne donne-t-elle du réel qu'une vision étriquée et déformée, une représentation artificielle. Mais, comme le dit Bergson, et là je cite cette formule, elle touche quelque chose de l'absolu. L'intelligence touche quelque chose de l'absolu. C'est une formule très importante. Et pourquoi il écrit ça? Eh bien, précisément parce que par sa fonction pratique, qui la met en contact avec la réalité, eh bien, elle touche quelque chose de l'absolu. C'est-à-dire que les productions d'intelligence ne sont pas simplement de l'ordre du rêve. Les productions d'intelligence, elles nous mettent en contact avec quelque chose du réel. Et même si, bien sûr, l'intelligence n'aborde la réalité que de manière partielle, de manière étriquée, elle l'aborde d'une certaine manière, en quelque façon. Et là, je cite un autre passage de Bergson. Une intelligence, c'est la même chose hein, que dit Bergson, que je vous dis à sa façon. Une intelligence tendue vers l'action qui s'accomplira et vers la réaction qui s'ensuivra, palpant son objet pour en recevoir à chaque instant l'impression mobile, est une intelligence qui touche quelque chose de l'absolu. Alors, que veut dire absolu ? Absolu, ce qui n'est pas relatif à l'homme, ce qui n'est pas relatif à l'intelligence de l'homme. Donc, si l'intelligence touche quelque chose de l'absolu, ça veut dire qu'elle est bien obligée de sortir d'elle-même, d'être en rapport à autre chose qu'elle, si vous voulez. Le réel, elle touche quelque chose d'absolu au sens où elle touche quelque chose qui, dans le réel, ne dépend pas d'elle. Vous voyez, en ce sens-là. Bon, donc l'intelligence, oui, c'est vrai, ne nous fait connaître qu'un aspect du réel. Et pour la connaître véritablement, il faudra envisager un autre mode de connaissance, dont je ne vous parlerai pas ce soir, puisque c'est ce dont il sera question avec l'évolution créatrice. Il faudra dépasser l'intelligence vers un autre mode de connaissance, qui sera l'intuition de la durée. Bon, mais je ne vais pas me lancer là-dedans, si vous voulez, pour l'instant. Si je récapitule, donc pour Bergson, il s'agit ni de s'illusionner sur l'intelligence, en oubliant ses limites, en lui prêtant le pouvoir de connaître intégralement la réalité, ni de renoncer à connaître la réalité, ni de renoncer à connaître la vie. Et donc sa philosophie consistera à approfondir la nature de la vie. Il réhabilitera la métaphysique. Il réhabilitera la métaphysique, c'est-à-dire qu'il considérera que la métaphysique peut vraiment connaître le réel, pour peu, bien sûr, qu'elle élabore une autre méthode que celle de la seule intelligence. Alors, pour mener à bien ce projet d'approfondissement de la vie, bon, il faudra conjuguer deux recherches, c'est ce que montre à la fin Bergson. Vous voyez, je suis très près de la fin, rassurez-vous. Il faudra conjuguer deux recherches, une théorie de la connaissance, une théorie de la vie. Ce sont deux théories qui sont inséparables, qui se constituent l'une par l'autre. Il est impossible de connaître la vie si on n'a pas une théorie correcte de la connaissance, si on se méprend sur la nature de l'intelligence, on ne peut pas avoir une théorie de la vie. Et il est impossible de connaître l'intelligence, d'avoir une juste théorie de la connaissance, si on n'a pas une théorie de la vie qui nous montre la genèse et la formation de l'intelligence. Vous voyez, réciprocité. Et donc, la bonne démarche, si vous voulez, qui doit être celle de la philosophie, c'est un processus circulaire, comme dit Bergson. Un processus circulaire. Je cite Bergson, il faut que ces deux recherches, théorie de la connaissance et théorie de la vie, se rejoignent, et par un processus circulaire, se poussent l'une l'autre indéfiniment. Et c'est précisément cette démarche que va mettre en œuvre ici Bergson dans son livre, qui lui permettra de construire une véritable philosophie de l'évolution qui n'a rien à voir avec celle de Spencer. Mais ce travail, d'une certaine façon, on ne peut jamais prétendre l'achever. Il ne peut pas être l'œuvre d'un seul philosophe. Une philosophie de ce genre, dit Bergson, ne sera pas en un jour. Elle demande un effort collectif. C'est une œuvre qui doit être continuée, vous voyez. Il n'y a pas de terme, cette œuvre. Elle doit être prolongée. Et après avoir justement montré sa démarche, bien Bergson peut présenter le plan de son ouvrage. Je vais en rester là, je ne vais même pas présenter les étapes. Je reprendrai ça parce que c'est un peu long. Et simplement, je dirais que le premier chapitre, qu'on abordera très vite, eh bien, se construit autour d'une analogie, celle de la conscience et de la vie. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer, ce que fera Bergson, que la vie comme la conscience se caractérisent toutes les deux par la durée. C'est pour ça qu'il va partir d'abord de la vie de la conscience, de la vie psychologique, si vous voulez, pour montrer qu'elle est constituée par la durée, pour ensuite élargir le champ de sa recherche et aborder la vie. Vous voyez, il va partir d'une réflexion sur les caractères de l'existence individuelle. Et là, vous avez des pages extraordinaires sur le temps, sur la durée, sur la mémoire, sur la construction de la personne, qui sont dans les 7 premières pages du chapitre numéro 1. Voilà, et j'arrête là parce que sinon, vous allez être... Voilà, alors est-ce que... je ne vais pas trop déborder. Est-ce qu'il y a des choses à revoir, à dire? Tout ça, vous savez, c'est une familiarisation. Ça vient... Ça vous donne une idée du projet. Aux questions, oui.
Est-ce qu'il serait possible de préciser un peu la définition de la matière? Et puis aussi le réel et la réalité de la vie, est-ce que c'est pareil ou est-ce que...
Alors là, c'est vrai que pour l'instant, je dois reconnaître qu'il y a eu un certain flou dans mon propos à ce sujet, parce que c'est vrai que ce sont des notions qu'il va falloir préciser, qui se précisent en cours de route. Disons que pour l'instant, bornons-nous à dire que la matière, ce sont les choses inertes qui nous environnent. Sur lesquels nous pouvons avoir prise. Mais c'est insuffisant de dire ça. C'est insuffisant.
C'est pas la nature.
C'est le réel, c'est la totalité qui ne se borne pas à la matière. Mais alors la matière elle-même, elle dure. d'une certaine façon. C'est ça qu'on va comprendre. Mais là, on ne peut pas le dire. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout de suite. Hein? Mais c'est vrai que ce qu'il appelle la vie aussi pour l'instant, le réel pour l'instant, oui, ça nous paraît une notion un peu nébuleuse, hein, dire les choses. Mais on va voir que ce qui constitue donc ce réel, c'est qu'il n'est pas donné, il se fait. Ensuite, évidemment, il dépose, hein, comme le fleuve, comme le grand, comme un grand courant, il dépose les choses. Hein. Comment il les dépose? De quelle manière? Ça, effectivement, on pourra aussi le préciser. Mais au fond, c'est ça, l'essence même du réel, c'est la durée. Une philosophie de la durée. Alors, il va parler d'élan vital. Pour l'instant, je n'ai pas employé le mot. Alors, parce qu'on va penser que oh, derrière, c'est une sorte de conception mystique, religieuse. Non, l'élan vital, c'est pas Dieu. Hein. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas encore dire de quoi il s'agit précisément. C'est une image qui permet, au fond, d'exprimer ce mouvement profond qui constitue le réel. Oui.
Mais il me semble que l'échec de l'intelligence humaine dont vous parliez tout à l'heure, avec des solides côte à côte dans l'espace et tout, c'est quand même de l'intelligence humaine à la papa, si je puis me permettre. C'est quand même une pensée très masculine et très datée. Les 115 ans qui se sont écoulés depuis 1907 nous montrent qu'effectivement on a appris beaucoup de choses depuis et on a effectivement tenté d'échapper à cette...
Oui, alors je ne suis pas d'accord avec cette objection.
Je trouvais un peu simpliste quand même.
Non, parce que.
De découper les choses et les recoller, c'est vrai que ça ne marche pas très bien.
Non, simplement. Bon, on va. Non, parce que si vous voulez, ce découpage initial, oui, effectivement, ça paraît grossier. Mais après, effectivement, la science va affiner considérablement.
Oui.
Par le calcul infinitésimal, par un tas de. Bon. Mais sur le fond, l'essentiel. De la démarche, c'est une démarche analytique.
Oui, justement, elle a des limites, et ça n'est sans doute pas la seule forme d'intelligence, même dans les sciences d'ailleurs, de couper en morceaux et puis de reconstituer en...
Il y a des éléments qu'on combine.
C'est très bien pour construire une machine à vapeur, mais
non.
Pas pour penser ce que c'est qu'un chat.
Pour penser ce que c'est qu'un chat. Ben justement, c'est là que la pensée de Bergson va entrer en jeu. C'est pour montrer que le vivant, la science du vivant, aura besoin de sortir du caractère grossier initial des concepts de l'intelligence. C'est ça qu'il va montrer. C'est que là, effectivement, les sciences du vivant nous mettent en difficulté, elles nous mettent au défi. Hein, d'appréhender justement ce qu'il y a de novateur dans le vivant. Au fond, ce qu'il va surtout montrer, c'est qu'il y a dans le vivant de l'imprévisible, que la science a du mal à appréhender, qu'elle ne peut pas appréhender. Ah non, là-dessus, au contraire. Lui, il est là pour montrer que la science elle-même va devoir se confronter à des difficultés que révèle justement la question du vivant, la question de l'évolution. Vous voyez ? Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il reproche à l'intelligence et ce que vous dites. Mais, bon, mais là encore, il faudra voir ça de près par des exemples.
D'autre part, on peut s'interroger sur son abandon, enfin, abandon, pas vraiment, mais des mathématiques, que ça mise de côté. C'est vrai que les mathématiques... s'attache à l'étude d'objets inventés dans la tête, si j'ose dire, et qui peuvent trouver des résonances avec le monde réel, mais qu'on trouve parfois après coup. C'est-à-dire, en mathématiques, on invente des trucs, et puis 25 ans après, on dit, tiens, ça pourrait servir pour ça. On n'y avait pas pensé.
Ce qu'il est en train de dire, c'est que la structure de l'intelligence qui s'exerce en mathématiques, par l'analyse, par la composition, etc. Et elle n'est pas une structure éternelle, elle est quelque chose qui s'est forgé au contact de notre rapport à la matière. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une essence, il n'y a pas des idéalités, il n'y a pas des idées qui tombent du ciel de ce point de vue-là pour lui. Hein, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Hein. Oui, moi aussi, je découvre un peu. Comment ?
Ça n'est pas platonicien.
C'est pas platonicien, absolument. Absolument. Il y a c'est un penseur. Bergson est un penseur assez déroutant parce qu'on on a tendance à lui prêter, je dirais, un discours un peu mystique sur l'élan vital, alors que en fait, si on regarde bien, pas du tout. Hein, c'est un penseur qui enracine la pensée dans du biologique. Hein. Donc, il y a un dépassement qui s'effectue. Alors, évidemment, je suis bien conscient du caractère forcément limité du propos que j'ai tenu, puisqu'on est dans une ébauche, on a un commencement. Et moi, je vous dis franchement, c'est toujours pareil. Moi-même, je découvre l'œuvre. Enfin, j'ai une idée de l'auteur, mais d'une certaine manière, je la découvre aussi au fur et à mesure. Donc, il y a des problèmes que vous vous posez maintenant. Il faut accepter, quand on lit un auteur, de faire comme ça. D'accepter qu'on se pose des problèmes et des questions qu'il faudra résoudre après. Peut-être qu'on aura, je dirais, une vue plus claire au fur et à mesure de la lecture. Moi, je crois qu'il faut prendre les choses comme ça. Hein. Mais, vous voyez, il y a peut-être des critiques que vous jugerez un peu excessives après coup. Vous voyez ? Je ne sais pas. Hein, c'est... En tout cas, bon, voilà. On lit patiemment, progressivement, hein, au fur et à mesure. Vous voyez, ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est que, bon, voilà un texte au début qui peut vous paraître la première vue. Hein, vous lisez la première fois l'introduction. Oh, j'ai rien compris. Bon, mais, hein, mais c'est vrai. De toutes les œuvres, avec Sartre l'année dernière, on souffrait plus. Hein. Et là, au début surtout. Mais bon, après, y a une familiarisation. C'est vrai qu'on ne lit pas d'emblée tout de suite un auteur, on le relit. On le retravaille. Ça vient au fur et à mesure. Il faut de la patience et du temps, ce qui aujourd'hui sont deux qualités qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Là, on attend un punchline de Bergson. Et monsieur Bergson, qu'est-ce que vous pensez du temps ? En deux secondes, hein, s'il vous plaît, dépêchez-vous.
Quand même, un avantage, c'est son écriture.
Oui. Qui est très plaisante.
C'est plaisant, c'est... Après, c'est...
Alors, mais en même temps, le problème est là. C'est que la lecture est plus... facile, enfin, oui, ça coule, il y a des métaphores, il y a des images, c'est même beau, il y a même des passages qui sont magnifiques, littérairement magnifiques.
Ouais, je pense pas, pas de pas de c'est moins littéraire, enfin, vous avez dit qu'il a eu le prix Nobel.
Non, non, mais il y a des, bon, sur la mémoire, sur le il y a des belles pages, vraiment des belles pages. Bon, en plus, elles sont d'autant mieux appréciées qu'on les comprend, c'est sûr. Sinon, quand on glisse dessus, on se dit « Oh, c'est des mots hein. !» Mais oui, c'est vrai que c'est plus attrayant. C'est plus attrayant, mais ce n'en est pas moins... Ce n'en est pas plus facile. Hein. Je dirais pas que c'est facile, parce que justement, on risque de glisser. Vous voyez ? Mais c'est vrai qu'il a le souci. Il ne veut pas utiliser un vocabulaire technique. D'autres questions, remarques ?
Ouais, c'est une remarque un peu à côté, probablement, alors qu'il ouvre sur trop de...
Peut-être.
Et toutes ces réflexions sur l'intelligence, vous l'avez rappelé, notre intelligence, l'intelligence humaine, à la lecture de ces passages-là, moi, je me suis poser la question où en est-on de vouloir inventer une intelligence artificielle? Quel est le besoin de l'humanité aujourd'hui d'inventer une intelligence artificielle donc, qui est,
ah, mais c'est une bonne question. Hein.
En opposition à l'intelligence humaine qui nous décortique là, pourquoi on en arrive là? Est-ce que c'est pour... est-ce que c'est une impasse? Parce que...
C'est pour passer aux garanties de l'intelligence humaine.
Là, on voit qu'on travaille sur la matière, l'intelligence artificielle, elle travaille sur la donnée...
Dans la mesure où, d'ailleurs, Bergson lui dit lui-même qu'il y a des mécanismes de l'intelligence.
Oui,
il parle de mécanismes d'intelligence. Il y a des, opérations... Absolument, il y a des opérations de l'intelligence qu'on peut imiter, qu'on peut reconstruire une intelligence artificielle sur le modèle des opérations menées par l'intelligence humaine. Hein. C'est vrai qu'on peut le faire. Et puis on peut même y arriver encore beaucoup mieux. Parce que les machines, les ordinateurs, etc., peuvent effectivement calculer d'une façon absolument plus rapide.
Oui, la question qu'on se pose avec l'intelligence artificielle, c'est l'autonomie qu'elle aura, cette intelligence-là. Parce que là, on va mesurer toutes les évolutions, les constructions, les limites de l'intelligence humaine, mais avec l'intelligence artificielle, on ouvre un champ de...
Oui, sauf que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence artificielle n'invente pas de nouveau.
Donc voilà, c'est l'interrogation.
C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui est produit par l'intelligence artificielle, même si évidemment c'est extraordinairement complexe, est prévisible.
Oui, c'est ça.
C'est programmé.
Donc quelque part,
on... Et justement, c'est ce que veut...
Elle reste un sous-produit de l'intelligence
humaine. Oui, mais justement, il veut montrer personne qu'il y a une pensée humaine qui n'est pas réductible à l'intelligence. C'est ça qu'il veut montrer. C'est qu'on aurait tort, mais pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose de plus, parce que je n'ai pas été jusque-là. Et c'est vrai que la pensée, ce serait une erreur de réduire la pensée à l'intelligence. Il y a une inventivité de la vie comme une inventivité de la pensée humaine, mais qui ne peut pas se penser sur le modèle de l'intelligence, de la fabrication. Est-ce que quand on fabrique quelque chose, on a un plan, puis on l'exécute? Donc tout est prévisible.
Mais tel qu'on a commencé à le deviner, me semble-t-il, ce soir, c'est que l'intelligence, elle accompagne l'évolution.
Elle est un produit d'évolution.
Elle est un produit de l'évolution, et donc... Il y a une sorte d'assimilation entre les...
Oui, elle est un produit de l'évolution qui nous empêche de comprendre l'évolution. Un paradoxe. C'est un paradoxe que veut énoncer Bergson. Et d'une certaine façon, si on veut comprendre l'évolution, il faudra dépasser les illusions de l'intelligence. Il faudra élaborer une autre méthode d'approche du réel. Et c'est ce que s'efforcera de faire Bergson. Mais là, je ne vais pas entrer là-dedans. Hein. Donc l'intelligence est limitée, mais il ne s'agit surtout pas de la rejeter. Hein. Pas du tout. Hein. Ça, ce n'est pas du tout une critique anti-intellectualiste. Ce n'est pas un anti-intellectualisme. Parce qu'on l'a parfois mal compris, Bergson. On a pensé qu'il défendait une sorte d'irrationalisme. Non, pas du tout. Non, simplement, l'intelligence, c'est un produit de l'évolution, mais qui, par ses procédés d'explication, nous écarte de l'évolution. Il nous empêche de la saisir. C'est ça la difficulté, si vous voulez, si je résume. Oui. Donc, alors comment on pourra la dépasser ? On n'est qu'à l'introduction. Je ne peux pas dire plus, moi. Vous savez, alors Bergson, bon, je vais arrêter là bientôt. Bergson est un auteur, un philosophe, qui officiellement n'a pas eu tellement de disciples. Hein. C'est comme contrairement à d'autres. Hein. Je prenais l'année dernière parler de ce grand philosophe allemand, Husserl, dont le nom n'est pas connu, mais qui a pourtant engendré Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, enfin bon, toute une école derrière. Et c'est vrai que Bergson, on ne connaît pas tellement de disciples, sauf qu'aujourd'hui, il y a tout de même un certain nombre de penseurs qui reviennent à Bergson. Hein. Très différents d'ailleurs. Très différents. Alors, il y a le fameux Deleuze, hein, dans ses travaux sur le cinéma, bon, qui est vraiment un lecteur à la fois de Spinoza et de Bergson. Ce sont deux auteurs, deux philosophes qui le rapprochent. Et puis vous avez alors un philosophe dont vous ne connaissez pas le nom et qui est pourtant immense, ouais, ce qui est médiatique, hein, vous voyez, c'est pas forcément. Ce qui est important n'est pas forcément médiatique, je veux dire. Et ce philosophe s'appelle Simondon. Alors, c'est une pensée complexe, hein, difficile. C'est un grand philosophe qui est un disciple, d'une certaine façon, de Bergson. Et puis, il y a un grand philosophe aussi, dont le nom vous est peut-être un peu plus connu, il s'appelle Canguilhem, qui était en même temps médecin. Qui est très... qui est un lecteur de Bergson. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout de même une postérité, malgré tout. Hein, vous avez des... Voilà. C'est tout de même, pour moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu Bergson, c'est un penseur très original. Vraiment très, très différent. On essaiera de comprendre pourquoi. Très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Bon, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Vous voyez, c'est un auteur que j'ai découvert sur le tard, en fait.
Tout c'est un auteur qui écrit d'entrée de jeu, qui situe la philosophie comme angle de vue au-dessus des sciences.
Alors...
Il le dit presque comme ça, quand même. Hein.
Alors,
il se permet de le dire, parce qu'on sent qu'il connaît, c'est tout des sciences. Enfin,
oui, il a une connaissance scientifique absolument fabuleuse.
Compris, astrophysicien,
il connaît toutes les sciences de son temps.
Et, enfin, disons que pour lui, la démarche, c'est de se dégager de ça.
Oui, mais en même temps, l'idée qui se fait de la philosophie est assez déroutante, parce qu'il n'envisage pas la philosophie comme une pure spéculation... non, c'est une philosophie qui va être confirmée par les faits, par l'expérience.
La trame scientifique
reste... Et il y a toujours un appui sur les sciences. Il ne peut pas y avoir de philosophie sans les sciences, il ne peut pas y avoir de science sans la philosophie. Pour lui, il y a un lien. Et bon, ce lien qui déjà à son époque était nié, ne serait-ce que par son prof de maths.
Il le présente comme une nécessité, une complémentarité nécessaire.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas. Un philosophe qui néglige les sciences, s'intéresse pas aux sciences, pas un philosophe, enfin, c'est pas quelqu'un de sérieux. Et un scientifique qui divinise les sciences sans s'intéresser à leur démarche et à leur. C'est pareil, c'est pas. Hein, voilà. Ça, c'est croire qu'il y a une complémentarité, absolument. Mais bon, je vous dis, c'est une belle œuvre. Mérite le temps. Alors, avant de vous quitter, je vous dis, comme c'est dense, vous avez remarqué que c'est dense, hein, je crois que quand je ferai des séances sur Bergson, je serai obligé, je crois, de délimiter des extraits un peu longs, pour pouvoir prétendre lire tout le chapitre entier, par exemple, pour, vous voyez, pour avancer dans notre lecture. Ce sera plus facile, et j'essaierai, cette fois-ci, de ne pas faire la bêtise... que j'ai fait.